Vous écoutez RTL.
Tout de suite, une expérience de mort imminente sur RTL. Vous connaissez notre émission, on aime bien comme ça passer d'un thème à l'autre. Bonjour Jean-Jacques Charbonnier.
Bonjour.
Bienvenue.
Vous êtes médecin, anesthésiste, réanimateur. On va commencer par définir ce dont on va parler ensemble pendant une demi-heure. C'est quoi une expérience de mort imminente?
Ben déjà, ça commence mal, on va dire, parce que expérience de mort imminente, je ne suis pas très satisfait du terme.
Ah.
Parce que moi, je les appelle les expériences de mort provisoire, puisqu'on sait depuis mars 2001, depuis les travaux publiés par Devries et Baker, que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on a un électroencéphalogramme plat. Et donc, c'est la définition de la mort clinique. Et on sait aussi que dans les conditions optimales de surveillance de nos activités cardiaques, c'est-à-dire dans les unités de soins intensifs ou de réanimation, cette période de 15 secondes est largement dépassée. Le temps que l'infirmière constate qu'il y a un arrêt cardiaque, que l'alarme sonne, qu'elle se rende au chevet de celui qu'elle va masser, puisqu'il faut faire des massages cardiaques, et ben les 15 secondes sont déjà révolues. Et que dire des expériences qui se déroulent sur la voie publique ou à domicile? Là, les 15 secondes, bien sûr, passées depuis longtemps.
Donc vous dites expérience de mort provisoire, mais alors ça consiste en quoi? En quelques mots, parce qu'on va avoir du temps pour décrire ce qui se passe, mais que décrivent ceux qui l'ont vécu?
Alors pas tous, puisqu'il y a entre 12 et 18% de personnes adultes qui vivent cette expérience. Il y en aurait 65% chez les enfants, donc beaucoup plus. En gros, ces personnes sortent de leur corps, voient les manœuvres de réanimation, voient ce qui se passe à distance même de leur corps, c'est ça qui est le plus surprenant, dans une autre pièce ou même à des kilomètres de là. Et quand on vérifie tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont perçu, on s'aperçoit que c'est exact. Donc ça, on ne peut pas expliquer ça avec notre notion de conscience fabriquée par le cerveau, puisqu'il ne fonctionne plus. Ensuite, il passe dans un tunnel, ils rejoignent une lumière qui est dite de lumière d'amour inconditionnel, ils revoient toute leur vie, ils ressentent tout le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres comme si c'était à eux-mêmes qu'ils l'avaient fait. Ils voient, certains d'entre eux voient un être de lumière qui leur dit: qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait pour les autres? Et ils reviennent ensuite dans leur corps complètement transformés par cette expérience qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute leur vie.
Quel voyage! Alors vous avez vécu, vous ou l'un de vos proches, une expérience de mort imminente ou provisoire. Vous pouvez témoigner au 3210 ou sur rtl.fr ou avec le hashtag La Curiosité RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL. Qu'est-ce qui nous arrive après la mort?
La seule façon de le savoir, c'est de vérifier par nous-mêmes.
La curiosité est un vilain défaut.
On pourrait rédiger une étude sur cette expérience. T'as vu une lumière blanche? Ça ressemblait plus à de l'énergie pure.
Et elle joue du piano maintenant.
Je veux être le prochain.
Sidonie Bonnec, Thomas Hughes.
C'est un bon jour pour mourir.
On dégage.
Jusqu'à 15h sur RTL.
L'expérience de mort imminente, c'est un phénomène mystérieux qui passionne les scientifiques et le cinéma aussi. Vous venez de l'entendre, un film sur ce thème sort aujourd'hui, L'expérience interdite, The Flatliners. Ça nous a donné l'idée sur RTL de faire témoigner un médecin et aussi tout à l'heure, vous l'entendrez, une jeune femme qui a vécu cette expérience. Jean-Jacques Charbonnier, vous êtes donc médecin depuis plus de 30 ans, anesthésiste, réanimateur. De quand date votre premier contact avec l'expérience de mort provisoire, parce que c'est le terme que vous employez?
Ben, du début, je me suis intéressé depuis le début à ça, puisque j'ai choisi cette spécialité, l'anesthésie-réanimation, à cause de ça, je dirais. J'avais été très impressionné par ce livre publié par Raymond Moody, Life After Life, un best-seller publié à 13 millions d'exemplaires. Et j'ai commencé comme ça à recueillir quelques témoignages. Et puis, de fil en aiguille, j'en recueille beaucoup. Pour vous donner une idée, il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive 2 ou 3 mails de personnes qui ont vécu cette expérience.
Et votre première expérience vécue, c'est-à-dire un patient qui vous raconte ou qui le vit à côté de vous, ou même une sensation que vous avez ressentie,
oui.
Est-ce qu'il y a eu ça?
Il y a eu cette chose, puisque c'est quelque chose qui ne supporte pas de mots terrestres, je dirais. Alors que je m'apprêtais à réanimer une personne, du fait de mon inexpérience, de mon émotion, etc., je n'y suis pas parvenu et j'ai ressenti cette chose. J'ai ressenti ce que les expérienceurs, c'est-à-dire celles et ceux qui ont vécu ces arrêts cardiaques et qui ont connu cette expérience, disent. J'ai ressenti la fuite de quelque chose de vivant et de joyeux qui quittait le corps au moment où cette vie s'est partie de ce corps que je ne suis pas parvenu à réanimer. Et c'est ça qui a changé ma vie.
Jean-Jacques Charbonnier, vous publiez La conscience intuitive extraneuronale aux éditions Trédaniel. On y découvre que l'expérience de mort imminente ou provisoire fait l'objet d'études sérieuses depuis 40 ans. Alors en 4 décennies, est-ce qu'elle a été vécue par beaucoup de Français ?
Oui, alors les études sont un petit peu poussiéreuses, puisque ce sont des études statistiques qui ont été publiées en 1997 par l'Institut Gallup, qui montrerait qu'il y aurait 4% de la population moyennement médicalisée qui aurait vécu l'expérience, ce qui fait à peu près 2,5 millions de Français, et se ferait à la louche, même plus, oui, maintenant, puisque ça a monté la population française au dernier recensement.
60 000 personnes par an, ça fait ça, à peu près?
Ah oui, c'est énorme, et ça ferait même plus, et ça ferait 60 millions de personnes sur cette planète qui auraient vécu l'expérience. Ça ne fait pas 4% de la population planétaire, parce que si vous faites un arrêt cardiaque au Zimbabwe ou à Paris, c'est pas pareil. Donc voilà, ça ferait beaucoup.
Mais tous ces témoignages, évidemment, ça crédibilise, parce qu'ils se recoupent, parce que ces gens décrivent les mêmes situations, les mêmes sensations. Ça arrive dans quelles conditions? C'est-à-dire qu'il faut quoi? Il faut un arrêt cardiaque, évidemment.
Il faut un arrêt cardiaque.
Ça dure combien de temps? Quelques secondes? Quelques minutes?
Alors ça peut durer quelques secondes à peine. Par exemple, il y a une expérienceuse qui s'appelle Nicole Dron, qui a écrit un livre qui s'appelle 45 secondes d'éternité. Elle a écrit un livre de 300 pages sur une expérience qui a duré 45 secondes.
Qu'est-ce qu'elle raconte?
Il y a une dissociation du temps et de l'espace. Elle raconte toute son expérience, cette intrusion dans l'au-delà, telle que je vous l'ai donnée en introduction. Donc, ça montre que, tout simplement, notre pensée matérialiste vole en éclat. Jusqu'à présent, donc, on pensait que c'était le cerveau qui fabriquait la conscience. Et il y a un professeur qui s'appelle Mario Beauregard, qui est un professeur qui est averti, qui a travaillé en neurosciences, chercheur en neurosciences à l'Institut universitaire de Montréal. Il a travaillé aussi au Texas, il est actuellement en Arizona. Il a publié plusieurs documents scientifiques sur les neurosciences.
Et qu'est-ce qu'il révèle alors?
Il a été élu.
Il faut aller vite là. Qu'est-ce qu'il révèle? On peut pas faire tout le CV de ce.
C'est une sommité. Oui. Et il a écrit un manifeste post-matérialiste où il est écrit, où il y a des co-signataires dont je fais partie, où il est écrit que ce n'est pas possible actuellement que l'on pense encore que le cerveau fabrique de la conscience, que le cerveau est une interface qui est entre une conscience extraneuronale, que moi j'appelle la conscience intuitive extraneuronale, et autre chose de matériel qui nous permet d'avoir des informations.
Alors restez avec nous sur RTL. Dans un court instant, Laura va nous raconter son expérience de mort imminente. Elle nous parlera de ce grand-père qu'elle ne connaissait pas et qui l'a accompagnée pendant son coma.
RTL.
La musique sur RTL, c'est ça. Des tubes.
RTL. Et des standards.
Et tous les week-ends, du live.
On aime la musique sur RTL.
On a la curiosité de percer le mystère des expériences de mort imminente, cette sensation de quitter son corps qui envahit certaines personnes dans le coma et qu'elles racontent après être revenues à la vie. On a voulu entendre le témoignage de l'un de ces Français ayant vécu une telle expérience. Bonjour Laura Blanchon.
Bonjour.
Vous êtes en direct sur RTL. Vous aviez 20 ans quand une méningite foudroyante a été mal diagnostiquée. Vous sombrez dans le coma à l'hôpital de Coulommiers. 10 jours de coma. Quel est le premier souvenir qui vous en reste?
Alors, le premier souvenir, c'est ma sortie de corps. Je me voyais en fait scotché au plafond dans l'angle gauche de la pièce. Et je voyais mon corps allongé dans le lit avec mon petit frère qui était à mes pieds. Et mon père qui était près de moi, sur ma droite.
Donc vous êtes dans le coma, Laura Blanchon, et pourtant vous avez le sentiment de communiquer avec votre papa.
J'avais l'impression de parler avec mon père à ce moment-là. Pourtant, j'étais dans un coma profond et j'étais intubée. Donc c'était pas possible, mais je dirais que c'était plus comme de la télépathie au final. Et je lui disais que je souffrais trop et que je voulais mourir. Et en parallèle, il m'a répondu qu'il préférait que je meure plutôt que je souffre. C'était un peu comme une autorisation pour partir.
Laura, vous décrivez comme des millions de personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente ce chemin, cette lumière apaisante et le contact, je ne sais pas exactement sous quelle forme, vous allez nous le dire, avec certains proches disparus. D'abord votre arrière-grand-mère, c'est ça?
Oui, c'est ça. Je me suis retrouvée dans un lit, mon arrière-grand-mère était présente et elle me rassurait en me disant que ça allait aller, que ça allait bien se passer, que j'allais retourner après auprès de mes proches. Et après, c'est une série de rêves comme ça. Enfin, moi, j'appelle ça des rêves. Plein de petits rêves. Et entre deux, un flottement, une lumière super douce. Vraiment, j'étais très apaisée, j'étais bien.
Et il y a aussi un vieil homme que vous ne connaissiez pas. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette rencontre?
Je me suis réveillée chez lui. Enfin, en tout cas, dans mon rêve, c'était la sensation que j'avais. Et il était très rassurant. Il me disait que ça allait bien se passer, que j'étais chez lui vraiment pour me reposer. Et il m'a fait faire le tour de sa maison. Il m'a montré son jardin. On a parlé. C'était rassurant. Mais ce monsieur, je ne l'avais jamais vu. Hein. C'était une personne âgée, mais je ne savais pas qui c'était.
Donc à votre réveil, vous la décrivez à vos proches, cette personne ?
C'est ça, j'en parle entre autres à mon mari, à ma belle-sœur, à mon beau-père, et qui, dans la description du vieux monsieur, retrouve le grand-père de mon mari, qui est décédé en 2005, que je n'ai pas connu. Et ils m'ont proposé d'aller dans la maison, qui maintenant a été vendue, d'aller voir la maison. Et donc on a fait 400 km et on a été voir cette maison. Et alors c'est pas... conforme vraiment point par point, mais il y a énormément de points communs. Il y a une allée de peupliers, il y a la même véranda, un endroit, j'ai pu situer un poulailler qui a existé dans le temps. Tout était semblable. Sauf, j'ai dit à mon mari, pour moi, il y avait un saule pleureur devant la maison. Et il est venu, il m'a montré une souche d'arbre devant la maison et il m'a dit, quand j'étais petit, il y avait un saule pleureur ici.
Laura, d'un mot, ça vous a forcément changé ? Ça a changé quoi dans votre vie, cette expérience de mort imminente ?
J'ai pas peur de mourir. En fait, je vis ma vie, j'en profite à fond. Et j'ai eu derrière 3 beaux enfants et je profite vraiment de chaque instant. Mais du coup, je vois la vie autrement dans le sens où la mort me fait pas peur. Et je sais qu'il y a quelque chose après. Autant avant, j'étais athée, je ne croyais absolument rien. Là maintenant, je ne pourrais pas définir ma croyance, mais je crois qu'il y a quelque chose.
Merci beaucoup Laura. Laura Blanchon, vous racontez votre histoire dans un livre, Nos vies suspendues, qui est publié aux éditions Très Daniel.
Que se passe-t-il après une expérience de mort imminente ? C'est ce que l'on va découvrir tout de suite, les curieux, sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
C'est très précis. La couleur des draps, le nombre d'infirmières, l'interne. Je me vois moi. Je vois mon visage, la tête effrayante que j'avais. Et à partir de là, il y a le départ vers le haut.
La curiosité est un vilain défaut.
Je voyais des sortes de formes qui auraient pu être des formes d'êtres humains, des éléments un peu blanchâtres. Plus que la vision, c'est la sensation d'une bienveillance.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Comme un sourire qu'on ne voit pas.
Jusqu'à 15h sur RTL.
Philippe Labro, l'ancien patron de RTL, grand journaliste réputé pour sa rigueur, qui raconte son expérience de mort imminente après une pneumopathie foudroyante. C'était en 1994. On plonge dans le mystère de ce phénomène, dans la curiosité, avec le médecin, anesthésiste, réanimateur Jean-Jacques Charbonnier. Et pour percer justement les secrets de ce phénomène, Jean-Jacques Charbonnier, vous travaillez sous hypnose. Avec qui et pourquoi ?
Oui, je me suis dit, Laura l'a très bien expliqué, quand on vit ces expériences-là, on n'a plus peur de la mort. Et on est débarrassé de ces douleurs du deuil. Enfin, on est apaisé par rapport au deuil. Mmh. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à cette action thérapeutique face aux angoisses de la mort ou aux douleurs du deuil. Donc je me suis demandé si, en mettant les gens sous hypnose, vous savez que les anesthésistes maintenant peuvent opérer des personnes sous hypnose sans produits chimiques, avec cette technique-là, si on leur fait faire le voyage de l'expérience de mort provisoire, est-ce qu'on arrive au même effet thérapeutique. Et là, j'ai hypnotisé plus d'un millier de personnes. C'est l'expérience interdite, en quelque sorte, mais sans danger cette fois. Et là, on a des personnes qui sont considérablement apaisées par rapport au deuil et par rapport aux angoisses de la mort. Donc, je trouve que c'est une action thérapeutique.
Jean-Jacques Charbonnier, mais ça positive. Dit quoi de l'après-vie ? Alors, rassurez-nous aussi. Il faut s'attendre à quoi ? De la douceur, de l'apaisement, des retrouvailles ? Selon vous.
Mais oui, mais vous savez, dans toutes les religions du monde, de façon intuitive, l'humanité sait qu'il y a une vie après la mort, que nous sommes un esprit dans un corps. Et il y a des statistiques aussi qui montrent que la majorité des scientifiques, même les matérialistes, ont une religion. Et dans toutes les religions du monde, qu'on soit musulman, protestant, bouddhiste, catholique, etc.
Oui, mais croyance n'est pas vérité. Ou réalité.
D'accord, mais alors vous mettez votre blouse blanche, vous n'y croyez plus, vous l'enlevez, vous y croyez. C'est quand même schizophrénique comme façon de se comporter dans la vie.
Et vous n'êtes pas le seul médecin. Il y a beaucoup de médecins qui d'ailleurs étaient très rationalistes, n'y croyaient pas avant, qui ont vécu eux-mêmes une expérience
provisoire
et qui ont changé d'avis.
Il faut avoir vécu soi-même une expérience humaine, cette chose. Ça a été pour moi cette chose.
Alors tout à l'heure, vous aviez donné une explication, mais un peu compliquée, un peu scientifique, pour nous dire que finalement, ce n'était pas le cerveau, si j'ai bien compris, qui créait la conscience. Mais alors elle vient d'où ? C'est quoi ?
Mais si vous voulez, la conscience, ça serait comme une sorte d'iCloud, des informations situées dans un iCloud.
Nuage d'informations.
Nuage d'informations. Et notre cerveau, c'est un récepteur, un filtre réducteur d'informations comme le sont nos iPhones ou nos iPads. Voilà, c'est aussi simple que ça.
D'accord. Est-ce que cette expérience, parce que là on a décrit des expériences douces, positives, dans le film qui sort aujourd'hui, l'expérience interdite, The Flat Trailer, c'est ça ?
Flatliners.
Flatliners, ouais. Merci.
C'est
l'électroencéphalogramme plat. Ça se passe mal. Est-ce qu'il y a des expériences douloureuses ?
Oui, il y a des expériences infernales ou des expériences négatives. Alors, difficilement quantifiables, parce qu'il n'est pas très glorieux de dire qu'on a traversé l'enfer. Pourquoi aurait-on mérité ça ? Mais elles existent, il faut le signaler. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de facteur prédictif. Et il y a des gens qui, véritablement, sont poursuivis par des figures géométriques, etc. Donc, ça fait un petit peu peur, tout ça. Et on ne sait pas pourquoi ces gens-là vivent ces expériences-là, mais il y en a très peu quand même.
Merci beaucoup, merci Jean-Jacques Charbonnier. Alors on va citer deux livres, La conscience intuitive extra-neuronale, c'est aux éditions Trédaniel, et puis aussi autre publication, plus récente d'ailleurs, vous avez employé le terme tout à l'heure en début d'interview, cette chose,
oui.
Pour décrire en fait l'expérience.
Et il y aura un colloque international le 14 mars à Toulouse avec les plus éminents spécialistes de ce sujet.
Vous écoutez RTL.